Et on va lire à partir donc d'Éphésiens, chapitre 3, verset 1 au verset 13. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence. On pourrait traduire aussi la compréhension ici que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui, nous avons par la foi, en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Prions, notre Père, dirige ces instants, que ta volonté se fasse. Ce matin, pour cette prédication, l'écoute de ta parole et de nous d'être attentifs, illumine les yeux de notre esprit, de nos cœurs, pour comprendre les Écritures saintes que tu as toi-même inspirées. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour tout ce que nous avons chanté, tout ce que nous avons entendu ce matin. Gloire et louange te soient données, Seigneur. Amen. L'apôtre Paul, on a déjà vu, puisqu'on regarde par exposition l'épître aux Éphésiens, a écrit cet épître alors qu'il est à Rome. Ça fait déjà 5 ans qu'il est prisonnier, 2 ans à Césarée, 3 ans à Rome. Et l'apôtre Paul a connu cette église d'Éphèse, qui est une église modèle, qui a connu un réveil spirituel. Des gens se sont convertis, ont même brûlé leurs livres occultes. Et Paul a le souci que ses frères et sœurs bien-aimés de cette église puissent vraiment comprendre ce qu'ils ont en Jésus-Christ. Donc, dans le premier chapitre et les premiers versets, il parle de toutes les bénédictions qui sont les nôtres. Il parle notamment du fait qu'on a été élu dès la fondation du monde, qu'on est prédestiné, qu'on a été adopté, qu'on est cohéritier avec Christ et finalement qu'on est scellé du Saint-Esprit. Alors Paul se dit, mais est-ce qu'ils vraiment, ils comprennent, mes chers frères et sœurs, ce qu'ils ont? Et Paul est poussé par le Saint-Esprit à prier, à partir du verset 15 jusqu'au verset 23, que justement les Éphésiens ne passent pas à côté de ce qu'ils ont en Christ et que leurs yeux soient éclairés pour qu'ils découvrent vraiment et qu'ils vivent, qu'ils croient et puis qu'ils vivent ce qu'ils ont vraiment en Christ. Et puis, comme on a la mémoire courte, Paul a un fardeau, c'est de rappeler aux Éphésiens d'où ils sont sortis. C'est exactement d'où on est sortis, des griffes du diable, de l'esclavage du péché, de l'impossibilité soi-même de se convertir, parce que nous étions comme morts, dit la Bible, mais Dieu qui est riche en miséricorde, avec son grand amour, alors nous a ressuscités avec Christ, nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Et en plus, il a fait quelque chose d'extraordinaire qu'il est obligé de souligner devant les Juifs pour qu'ils comprennent. Vous savez que Pierre avait du mal à un acte lorsque Dieu lui a demandé d'aller voir Corneille, qui était un païen, de se rendre chez un païen, un goy. Il a fallu tout un miracle et un songe de la part de Dieu pour que Pierre aille de lui-même prêcher l'évangile aux païens. Et le miracle, c'est que finalement, tant païens que juifs, nous formons un seul corps. Mais à l'époque, les juifs n'avaient pratiquement pas de relation avec les païens. Et tout d'un coup de dire aux païens, mais vous qui étiez exclus, maintenant vous êtes inclus. Et vous êtes inclus de façon extraordinaire parce que Dieu vous a placé dans son corps, qui est l'Église, le corps de Christ, dont Christ est la tête. Et vous avez toute plénitude de vie dans cette Église, tant juif que païen. Alors c'est vraiment en résumé les deux premiers chapitres. Et comme Paul a encore le souci que ses lecteurs puissent vraiment comprendre les peu de mots qu'il a exprimés au sujet de la réalité de l'Église, alors il commence à vouloir prier. Il dit à cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens, trois points de suspension. Et on retrouve cela au verset 13 aussi, je vous demande, ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous, elles sont votre gloire. Verset 14, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Il y a sept longues phrases dans le grec qui se trouvent dans l'épître aux Éphésiens, et Paul, à partir du verset 2 jusqu'au verset 13, écrit d'une seule phrase. En fait, il fait une parenthèse avant de commencer sa prière, il dit, mais au fait, il faut que je leur montre vraiment que cette révélation qui m'a été donnée concernant l'Église, qui forme un seul corps, tant juif que païen, vient vraiment de Dieu. Il faut qu'ils sachent que ce dont je viens de le dire vient vraiment de Dieu et qu'ils se réjouissent de ce qu'ils possèdent en Christ, mais aussi qu'ils font partie maintenant de l'Église. C'est extraordinaire. Alors nous ne réalisons pas ce que ça veut dire pour un païen de pouvoir maintenant bénéficier de tous les privilèges qu'avaient les juifs dans le domaine, évidemment, on parle spirituel. Donc l'apôtre Paul, ici, a voulu commencer de prier, mais tout d'un coup, il dit, mais il faut que je leur dise que ça vient vraiment de Dieu, qu'ils soient assurés que cela vient de Dieu et qu'ils comprennent le mystère caché. Dans ce passage, ici, il est question trois fois de mystère. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère. Verset 6, ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers. Et verset 9, et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité. Voulez-vous connaître le mystère de Dieu ? Un mystère, c'est une vérité cachée qui, un jour, est révélée. Dieu a des mystères, des choses cachées qu'il veut révéler. Par exemple, alors je vous donne la définition du dictionnaire pour vous assurer vraiment de ce qu'est le mot mystère. C'est l'ensemble de doctrines ou de pratiques que devaient seuls connaître les initiés. Ça, c'est ce que dit le dictionnaire français. Mais la Bible dit que tout simplement, un mystère, c'est une vérité cachée auparavant que Dieu révèle en partie dans le temps présent. Nous, dans notre traduction, par exemple, à la fin de la Bible, nous avons Apocalypse. Hein, dans le grec, Apocalypsis. Mais dans les traductions anglaises, c'est, je le dis en français, révélation. En fait, l'idée du mystère, c'est quelque chose qui se laisse découvrir, c'est quelque chose qui est révélé, qui est comme dévoilé, une vérité de Dieu qui était dans le temps de Dieu, planifiée par Dieu de toute éternité et qui maintenant se révèle et dévoilée pour nous, notamment les enfants de Dieu et même pour ceux qui liraient la Bible. Donc Dieu est maître du temps. Et dans cette souveraineté, il a planifié de révéler ce mystère. Et il l'a révélé à l'apôtre Paul. Alors, il y a d'autres mystères dans la Bible. Puis j'ai quand même envie, déjà encore dans l'introduction, de vous donner dans la Bible les plusieurs mystères qui sont quelques-uns du moins mentionnés ici, pour nous donner le goût à la bouche, dans le sens que Dieu a des mystères, mais il y a un temps pour lui de le révéler. La gloire de l'Éternel, c'est de cacher les choses, nous dit Proverbes 25, verset 2. D'ailleurs, quand on lit, par exemple, les prophéties, notamment le livre de Daniel, on voit à un moment donné que Dieu est en train d'ouvrir l'avenir, de donner une perspective, et certainement que même Daniel, ou ceux qui ont lu à cette époque-là, ou qui l'ont écouté, ils n'ont pas très bien compris le message. La Bible dit que la connaissance grandirait, notamment à la fin des temps. Et plus le temps passe, et plus ces écrits qui étaient comme voilés se révèlent comme des vérités extraordinaires. Par exemple, alors je vous donne une petite liste des mystères que j'ai trouvés, notamment dans le Nouveau Testament. Les mystères du royaume des cieux. Jésus-Christ enseignait avec beaucoup de paraboles, Et il a dit à ses disciples, voilà, je vous donne en parabole au sujet des mystères de Dieu. Il y a ceux qui comprenaient et ceux qui ne comprenaient pas. Ou ceux qui étaient près de Jésus, qui parfois ne comprenaient pas, mais qui demandaient à Jésus des explications. Ce sont des mystères. Pour les gens qui écoutaient Jésus, ils ne comprenaient pas trop ce qu'il voulait dire en fait. Et tout d'un coup, il révélait des vérités venant du Père que les disciples devaient assimiler puis comprendre. Un autre mystère, il est question du mystère de l'endurcissement d'Israël. Dieu a plongé Israël comme dans l'endurcissement pour qu'un jour ils se convertissent tous, en Romains chapitre 11. Le mystère de la vie de Christ dans le croyant, c'est intéressant ça. Christ en vous, dit Colossiens, l'espérance de la gloire. Avant, la gloire de Dieu se manifestait dans le tabernacle, la Shekinah de Dieu, et c'était extraordinaire. Maintenant, le mystère, c'est qu'en fait, dans la nouvelle alliance, Christ habite dans le corps du croyant qui devient le temple du Saint-Esprit. C'était comme caché dans l'Ancien Testament et maintenant révélé en Jésus-Christ par l'enseignement qu'il a donné et par ce que confirment les Épîtres. Il y a aussi le mystère de la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Et puis, la sagesse des hommes, ça reste une folie pour Dieu. La sagesse de Dieu. Le mystère de Dieu, savoir Christ, on l'a déjà dit, le mystère de la piété, le mystère, ah ça c'est intéressant aussi, de l'enlèvement de l'Église. Et voici qu'à un moment donné, la Bible dit que ceux qui sont morts en Christ et ceux qui seront vivants, au son de la trompette, au son de l'archange, vont être enlevés avec Christ dans les nuées à la rencontre du Seigneur, c'est extraordinaire. Et la Bible dit que c'est un mystère, 1 Corinthiens 15, 1 Thessaloniciens 4. Bon, peut-être j'aurais dû lire les passages là, je ne sais pas, mais vous avez l'idée en tout cas. Le mystère de l'iniquité qui agit maintenant dans le monde, il est parlé du diable. Quelque part, on ne connaît pas tout ce qui s'est passé. Comment Dieu a-t-il permis qu'un chérubin se révolte contre lui et laisse le mal, quelque part, se faire dans le monde? La Bible dit que c'est le mystère de l'iniquité qui agit aujourd'hui dans le monde, et c'est évidemment la présence de Satan qui un jour va mener à la venue de l'Antéchrist. Le mystère des sept étoiles, en Apocalypse chapitre 1, l'apôtre Jean est émerveillé de la révélation que Dieu lui donne, mais tout d'un coup, il n'est pas sûr de comprendre ce que ça veut dire les sept étoiles. Puis après, il est question des églises, que Christ est au centre des églises. Le mystère de la grande Babylone. Un jour, les hommes vont être étonnés que ce qui apparemment est grand, religieux, on en est exposé ces jours-ci, si vous voyez les événements, un jour va s'écrouler. La grande Babylone, le système religieux qui semble chrétien et rempli d'hypocrisie et de persécution des saints, et un jour va être dévoilé pour être abattu. Et puis la Bible dit enfin, et c'est le sujet de ce matin, le mystère de l'Église annoncé par Christ, réalisé après la croix et la venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. En Éphésiens 6, 19, l'apôtre Paul parle du mystère de l'Évangile pour lequel il est prisonnier, mais il demande la prière pour qu'il fasse connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Et puis, un autre mystère qui apparaît en Éphésiens, toujours dans la même épître, Paul est en train de décrire quelque chose d'extraordinaire. La relation mari et femme, à l'image de la relation, le Christ et son Église. Le mari doit être le chef de l'épouse, comme Christ est le chef de l'Église, l'Église se soumettre, mais une relation d'amour qui est extraordinaire, qui est très forte. Et c'est comme un mystère, dit Paul. Ce que je viens de vous dire là, que le mari et la femme sont comme, dans leur relation, comme Christ et l'épouse, c'est un mystère. Alors voyez-vous, vous qui êtes curieux, mais prenons le temps de découvrir les mystères de Dieu, parce qu'il y a des mystères, mais des mystères qui sont révélés aujourd'hui. Il y a eu un mystère dans votre vie, c'est qu'un jour Christ s'est révélé. Vous l'avez accepté, vous êtes sauvé, vous êtes en route pour le ciel, mais c'est extraordinaire ça. Christ habite en vous. L'apôtre Paul, et je crois qu'on va regarder ça seulement ce matin, un ministère qui apparaît dans le chapitre 3, nous aurions eu le temps, nous aurions regardé les différents mystères, la nature, si vous voulez, du mystère qu'on trouve dans ces premiers versets, verset 2 au verset 13, mais je doute qu'on puisse le voir, puisque je vous garderai bien trop longtemps après-midi. Mais on va regarder l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, ici, apparaît encore une fois, au travers de ses écrits, dans son ministère. Et l'apôtre Paul, en fait, commence son exposé en disant à cause de cela, « Moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens. » Le prisonnier de Christ, il ne dit pas qu'il est le prisonnier des Romains. Il ne dit pas qu'il est le prisonnier des Juifs, qui pourtant l'ont accusé et qui l'ont fait faire prisonnier. Il dit « Je suis prisonnier de Christ ». Voyez-vous, l'apôtre Paul voyait ses épreuves sous le regard de la souveraineté de Dieu et de la présence de Christ. Vous avez peut-être entendu parler du pasteur Von Brandt, qui est resté 14 ans en prison, ce Roumain athée communiste converti, qui ensuite a été mis en prison, et qui a joui de la présence de Christ. Il a un jour été interviewé par Jacques Chancel à Radioscopie, pour ceux peut-être les plus anciens qui connaissent cette émission. C'était des interviews assez extraordinaires. Et cet homme disait que prisonnier, il jouissait d'une communion avec le Christ qu'il avait eu tellement peur de perdre une fois libéré. La présence de Christ l'avait envahi. Paul ne se sent pas prisonnier des Romains, prisonnier des Juifs. Il est prisonnier de Christ. Et pour quelle raison? Pour les païens. Autrement dit, il a été fait prisonnier parce qu'il annonce l'évangile aux païens. J'aimerais vous dire ceci, c'est qu'en fait, Pierre était réellement lié, il était enchaîné, il était prisonnier, mais son cœur était libre. Voyez-vous, il y a des gens libres aujourd'hui, mais qui sont réellement prisonniers. Et il y a des gens prisonniers, dans le cas de Paul, des croyants sous la persécution, qui sont libres dans leur cœur, parce qu'ils ont la présence de Christ. Ils jouissent de la communion avec Jésus-Christ. Et dans cette liberté spirituelle, Dieu a choisi l'apôtre Paul, qui a écrit une grande partie du Nouveau Testament, notamment prisonnier, pour écrire les épîtres qui fondent, qui sont le fondement, la doctrine de Dieu et de l'Église. L'apôtre Paul, quoique prisonnier, n'était pas esclave, il était libre dans son cœur pour pouvoir même s'exprimer, être en communion avec Dieu, et de là ces belles écrites, ces belles épîtres qu'il a écrites. En fait, il est écrit « Si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée ». L'idée ici, c'est que Dieu lui a donné une administration à gérer, un mandat, une mission. L'apôtre Paul se sent appelé comme étant l'apôtre des païens. Et en Colossiens-Éphésiens, je vous le lis, Galates-Éphésiens-Colossiens, chapitre 1 et verset 25, je vous le dis, il dit « C'est d'elle, donc l'Église, que j'étais fait ministre selon la charge que Dieu m'a confiée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. » Paul avait une charge. J'aimerais vous inviter à réfléchir sur un aspect du ministère. Est-ce que Dieu vous a confié une charge? Est-ce que vous vous sentez appelé par une mission particulière? Mais si ce n'est pas le cas, vous devez vraiment réfléchir, parce que dans les Écritures, Dieu nous a confié plusieurs missions en tant que croyants. Mais allons un petit peu plus loin. Si vous n'avez pas encore cette charge qui pèse sur votre cœur, alors vous devez prier que Dieu vous trouve votre place dans l'Église, dans la mission qu'il veut vous confier, parce que Dieu veut que vous ayez une place. Mais deuxièmement, il veut vous donner une charge et il veut que vous persévériez malgré les épreuves. Parce que d'être prisonnier et de continuer à avoir ce fardeau, c'est quand même assez extraordinaire. Comment la puissance de victoire du Christ en Paul fait que Paul n'a jamais abandonné sa mission. Et franchement, je vous le dis, dans l'Église parfois, combien sont les croyants, et nous les premiers, nous abandonnons la mission, la charge que Dieu nous confie. Parce que nous sommes persécutés, enfin de différentes façons, parce que nous avons des épreuves, alors nous baissons les bras et nous cessons de regarder au Seigneur et de courir dans la carrière qui nous est ouverte. N'avons-nous pas tendance parfois à abandonner la mission que Dieu pourtant nous a confiée? D'abord, sachez que Dieu a une mission pour chacun de nous, et ensuite il veut que nous persévérions dans la mission qu'il nous confie, comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul ne baissait pas les bras. Il était à genoux, il était en train d'écrire, il était en train d'adorer Dieu, en train de prier et de vivre pour les autres, même prisonniers. Aucune plainte, aucune pitié de soi dans sa situation. Il est en train de voir comme Dieu voit les choses. C'est ce qui manque souvent dans nos vies, de voir comme Dieu voit les choses. Nous sommes si promptes à nous plaindre, verbalement ou non, devant Dieu, devant les autres, de nos circonstances, alors que Dieu, lui, a un regard de victoire et peut transformer tout mal en bien à sa gloire. Oubliant ce qui est en arrière, je cours vers le but de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. L'apôtre Paul avait une passion, c'est de demeurer en Christ, de vivre pour Christ et d'accomplir le mandat qui lui a été donné. Une deuxième chose qu'on apprend de l'apôtre Paul, verset 7, il dit « J'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. » Il dit « Mais moi, j'abandonne parfois. » Ben, relisons ce texte. Paul, il dit « Les ministres ». Ce n'est pas écrit « doulos » ici, « esclave », »,« ministre », c'est plutôt l'idée de « serviteur ». Il est serviteur selon le don de la grâce de Dieu. Autrement dit, il n'y a pas de service sans la grâce. Nous sommes graciés, et parce que nous sommes graciés, nous avons expérimenté la grâce, maintenant nous sommes prêts à servir par la grâce. Nous avons un ministère de grâce par la grâce du Seigneur. Et gloire à Dieu pour cela. C'est merveilleux que notre vie ne dépend pas de nos efforts, mais dépend de notre communion avec Christ, comme nous devons demeurer en lui, Jean chapitre 15, pour que la sève coule, pour que le fruit soit porté, et avec beaucoup de fruits, et encore plus de fruits, dit Jean, et du fruit qui demeure. Alors, Paul avait une vocation, et puis il était capable d'être ministre dans des circonstances même adverses, parce qu'il vivait de l'efficacité de sa puissance. J'ai bien aimé l'expression de l'apôtre Paul, parce que quels sont ceux ici parmi nous qui pourraient douter de la puissance de Dieu? Je pense personne. On est tous d'accord que Dieu est tout puissant. Mais est-ce qu'il est puissant dans ta vie? Paul dit ici qu'il le sait, qu'il m'a été accordé le don de la grâce de Dieu par l'efficacité de sa puissance. La puissance de Dieu, dunamis, c'est une dynamite. Mais comment se fait-il que parfois les croyants soient si affaiblis, si handicapés, alors qu'ils ont à leur portée toute la puissance de Dieu? Et l'apôtre Paul le dit abondamment en Éphésiens, qu'on est assis dans les lieux célestes en Christ. On a déjà le cœur au ciel, notre vie devrait regarder à Christ, et marcher sur la terre avec toute cette puissance de ressuscité. Vous êtes des ressuscités. Soyez ce que dit la Bible que vous êtes. Nous regardons souvent notre condition, et quand le diable nous tente, que nous avons des épreuves, nous regardons à cela, et on est prêt comme l'apôtre Pierre qui marchait sur les eaux à s'enfoncer. Alors que Dieu nous dit, regarde à moi, et persévère, et crois en la puissance de Dieu. Ça ne dépend pas de nous. Ce que Dieu peut faire au travers de nous, ça vient de lui, c'est lui l'origine de l'appel, c'est lui l'origine de la mission, c'est lui qui en a donné le contour, le mandat précis, et nous n'avons qu'à entrer dans sa bénédiction. J'aimerais vous poser une question ce matin, êtes-vous sûr que vous êtes à la place où Dieu vous veut? Alors géographiquement parlant, peut-être, je ne sais pas, mais vous comprenez ce que je veux dire, êtes-vous à la place où Dieu vous veut dans le service de Dieu? Est-ce que vous avez un service pour Dieu? Ou est-ce que vous dépendez des autres? Un peu comme la mère morte, n'est-ce pas, qui toujours reçoit les eaux vives de la mer de Galilée, mais qui finalement reste toujours morte, enfin tellement salée, qu'elle n'est pas exploitée. En tout cas, il n'y a pas de poisson, tandis que la mer de Galilée, qui est proche de le mont Lermont, qui se rafraîchit tous les jours à des eaux vives où il y a d'abondantes poissons, donc d'abondantes pêches, et qui est utile pour les autres. En fait, Dieu veut qu'on soit utile, et qu'on ait une image de soi-même à l'exemple de Paul humble. Il est écrit ici, à moi, il a été confié quelque chose d'extraordinaire, à moi qui suis le moins de tous les saints. Alors, vous avez pensé que vous êtes le pire des saints? Qu'il ne peut pas y avoir un chrétien plus faible que vous, plus terrible que vous, plus pécheur peut-être que vous? Mais Paul dit, à moi qui suis le monde de tous les saints. Donc ça devrait nous encourager. En tout cas, il a une vue humble de qui il est. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Paul ici voit sa tâche. Et face à cette tâche, à cette révélation qui lui a été faite, il voit humblement son rôle. Mais ce rôle est extraordinaire, ça n'enlève pas son autorité. C'est qu'en fait, l'apôtre Paul a reçu cette révélation du mystère de Christ. Et maintenant, son rôle, c'est d'aller dire ce qui est extraordinaire, ce qui est incompréhensible, les richesses extraordinaires et les bénédictions de Dieu au monde païen. Alors, vous aussi, vous avez une mission. Vous aussi, vous êtes appelés à prêcher l'évangile de la grâce, le mystère de l'évangile. Vous aussi, vous êtes le moindre des saints. On est tous d'accord là-dessus, n'est-ce pas? Mais dans ce vase de terre, nous voulons que la gloire de Dieu paraisse et glorifie le nom de Christ et pouvoir parler des richesses extraordinaires de Dieu. Vous croyez que c'est les témoins de Jéhovah qui vont parler des richesses incompréhensibles de Christ? Vous croyez que c'est les Mormons qui vont parler des richesses incompréhensibles de Christ? Vous croyez que c'est les agnostiques, les athées et tout ce que vous voulez qui vont parler des richesses incompréhensibles de Christ? Dieu vous a choisi afin que vous alliez et que votre fruit demeure. Il veut que nous allions prêcher ces richesses qui sont devenues maintenant compréhensibles pour nous. L'amour de Christ, sa bonté, sa beauté, sa joie, sa paix, son amour, son pardon. Si nous vivons cela, si nos cœurs débordent de la présence de Christ, nous allons vouloir, oh, ne pas être égoïste pour garder cette abondante vie en nous, mais la partager aux autres, qui va couler dans nos vies. Et peut-être qu'on ne va pas voir couler, c'est les autres qui vont le voir. Mais il faut que le monde soit impressionné par cette vie de Christ en nous. Il y a un prix à payer pour cela. Et l'apôtre Paul dit, finalement, au verset 13, « Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Ne soyez pas affligés si moi je suis affligé. » C'est ce que dit l'apôtre Paul. Paul est prisonnier. Il a un mandat extraordinaire. Mais même s'il est prisonnier, il ne veut pas être une source de découragement pour les autres. Nous pouvons devenir une source de découragement pour les autres. Mais Paul ne le voulait pas, lui. Il a décidé de garder cette passion de Christ, même en tant que prisonnier, et de glorifier Dieu, et d'être un exemple de foi, même prisonnier. Et il dit, mais même s'il y a des afflictions dans ma vie, sachez qu'elles sont pour vous, qu'elles glorifient Dieu, même si je suis prisonnier, alors je n'ai pas honte de l'Évangile, et je suis heureux d'être prisonnier pour Christ et pour vous. Voyez-vous, l'apôtre Paul, il a une dimension de consécration verticale, il est prêt à souffrir pour Christ, mais aussi il est prêt à souffrir pour ceux à qui il annonce l'Évangile. D'ailleurs, que ce soit les Juifs, que ce soit les païens, il a eu bien des tribulations. Alors, une application toute simple, est-ce que je suis aussi prêt à souffrir pour Christ? Est-ce que je suis prêt à voir Dieu transformer le mal en bien? Et puis, tout simplement, pour terminer, soyons prêts, frères et sœurs, à mettre nos cœurs comme des vases sous le robinet de la puissance de Dieu, à nous laisser remplir de cette énergie, cette puissance qui est à notre disposition, qui va faire une différence, certainement, dans nos vies et autour de nous. En 1 Corinthiens, chapitre 15 et verset 10, je vous le lis, il est dit, « Par la grâce de Dieu, c'est Paul qui dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Paul, serviteur de Dieu, prisonnier, ministre, par la grâce de Dieu, prêt à souffrir pour Christ, est un modèle à suivre. Est-ce que nous sommes prêts dans ces quelques aspects de ministère de l'apôtre Paul qui décrit ici, qui sont décrits dans ces premiers versets, est-ce que nous sommes prêts à nous identifier à la vie du serviteur qu'est l'apôtre Paul afin de glorifier Dieu dans toute sa puissance et sa grâce. Prions, s'il vous plaît. Notre Père céleste, merci de ta présence ce matin. Merci de ce que nous avons pu au moins voir, certains aspects de ce passage ici où Paul parle avec son cœur, ses tripes, et nous enseigne vraiment un aspect de son ministère pour nous encourager à persévérer, à réaliser notre mission, à réaliser que cette puissance est à notre disposition, à être prêt à souffrir. Oh, il se voit comme le moins des apôtres, le plus petit d'entre les chrétiens, mais il est prêt à servir. Père éternel, donne-nous de voir comme tu es, Seigneur, ce que nous avons en toi, afin de ne pas regarder à nous-mêmes nos faiblesses, mais de croire que tu veux nous utiliser à ta gloire pour le salut des âmes et l'édification du corps de Christ. Gloire te soit rendue, Père éternel, au siècle des siècles. Amen.